Chapitre 18. Outzorn, Afrique du Sud, 15h07. Je suis en mouvement, mais mes pieds ne touchent pas le sol. J'ouvre difficilement les yeux à cause d'une lumière éblouissante tout en bâillant. Je suis au milieu d'un paysage totalement inconnu et des bras m'encerclent. Je relève la tête pour voir à qui ils appartiennent. Mon regard se pose sur le visage d'Amir. Ses yeux sont éclaircis par la lumière du soleil et sa peau semble plus mate. Il me porte tout en marchant comme s'il ne ressentait pas mon poids. Les garçons se tiennent à ses côtés. Ils sont tous vêtus d'un bermuda et d'un t-shirt. Pourtant, ils n'étaient pas habillés comme ça quand nous étions dans le jet. Je porte toujours mon jean et mon haut à manches longues. J'étouffe à cause de la chaleur. Ma tenue est loin d'être adaptée à un climat pareil. Attendez, je réalise. Nous sommes arrivés en Afrique du Sud. Je n'ai même pas remarqué qu'on avait atterri. Je contemple les alentours. Je suis fascinée par la verdure qui domine la magnifique ville qui nous entoure. J'ai rarement vu un paysage aussi beau et aussi apaisant. J'ai la sensation d'être dans un rêve. Il n'y a aucune voiture, ni fumée d'usine toxique comme en France. J'aperçois plusieurs maisons à quelques mètres les unes des autres. La population locale ne nous accorde pas d'importance. Elle doit être habituée aux touristes. Certains passent devant nous en courant. T'es enfin réveillée. J'adresse un petit sourire gêné à Imen. Je suis vraiment une plaie. J'ai dû retarder l'emploi du temps initial.
Tu peux marcher ?
Me questionne Amir. Je le scrute, étonné par sa question. Il adopte une mine sérieuse, tout en me maintenant fermement contre lui. Il serait prêt à me porter alors que je suis réveillée, juste pour que je ne me fatigue pas? Je suis touchée et surprise, mais je ne laisse rien paraître. Mon cœur est sur le point de sortir de ma poitrine. Oui, tu peux me poser. Il me dépose au sol. Je lui offre un petit sourire timide en guise de remerciement. Espèce de fainéante, je suis sûre que tu l'as fait exprès pour ne pas avoir à marcher sous cette chaleur. J'aurais dû avoir un copain qui me porte aussi quand je suis fatiguée. Plaisante, Mathieu. Je le fusille du regard lorsqu'il prononce le mot copain, tandis que les autres rigolent, sauf Amir qui a l'air indifférent à cette allusion. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous en ce moment à nous imaginer ensemble, mais ce n'est plus tolérable. On a eu le droit au numéro de Dilara, et maintenant c'est au tour de Mathieu. Je me racle la gorge pour reprendre une certaine contenance. « Pourquoi vous ne m'avez pas réveillée ?» Je demande. « Tu dormais trop bien pour qu'on te réveille. » Balance Josh. « Il fallait le faire, j'ai dû être un poids pour vous. »« Non, t'inquiète, t'étais tellement apaisée que c'était beau à voir. » Avoue Iliane. Je pose un regard attendri sur Iliane et passe ma main dans ses cheveux pour le remercier de ses mots de réconfort. Parfois j'oublie presque qu'il est enfant. Néanmoins, il ne faudrait pas qu'il grandisse trop vite, même si c'est déjà le cas. Amir t'a porté dès que nous sommes descendus de l'avion, puis on t'a installé dans le taxi, et là, on vient juste d'arriver devant notre propriété. M'informe Aymen. Je suis encore plus gênée de savoir qu'il me porte depuis la descente de l'avion. Il fait si chaud que ça a dû être usant pour lui. Iliane m'attrape subitement la main en souriant. Je n'ai même pas le temps d'en placer une, qu'il se met à courir avec moi, qu'il le suit à la traîne.
« Regarde, on va vivre ici !»
s'émerveille Iliane. Il court jusqu'à une barrière qu'il pousse pour se diriger vers la porte d'entrée. Nous entrons. Nous allons loger dans une bâtisse composée d'un étage. Certes, on est loin du luxe de la villa Ben Khalif, c'est bien plus minimaliste, mais elle est parfaite. Dans le salon, plusieurs canapés sont alignés. Il y a des armoires en bois, de nombreuses torches et lanternes sont aussi installées dans les coins de la pièce. J'aime cette ambiance simple. Un portrait est accroché au centre de la pièce. Cette peinture grandeur nature représente un homme vêtu d'un costume bleu nuit en train de sourire. Il doit avoir une cinquantaine d'années, il a les yeux marron foncé, les cheveux grisonnants, une bouche charnue et une cicatrice en plein milieu du front. Le tableau a l'air ancien au vu de la poussière dessus. Ce visage me fait vaguement penser à quelqu'un. En bas des escaliers, nos valises sont posées, minutieusement installées. Comment sont-elles arrivées là alors que nous n'étions pas encore arrivés ? Ils ont sûrement dû demander au chauffeur de taxi de décharger les bagages. Je n'étais pas au courant qu'Amir possédait une propriété en Afrique du Sud. Je pensais qu'on séjournerait dans un hôtel et pas dans un tel endroit qui semble regorgé de souvenirs. Sur les différents murs, plusieurs tableaux sont disposés et sur les meubles, des petites statuettes sont aussi présentes. Une main se pose sur mon épaule, ce qui me stoppe dans ma contemplation. Je me tourne et découvre Mathieu. Les autres nous ont rejoints quelques minutes après Eliane et moi. Allons nous asseoir. Amir veut nous parler, m'avertit Mathieu. Je hoche uniquement la tête, ne voulant pas croiser le regard d'Amir. Ces dernières 48 heures, nos contacts physiques ont été beaucoup trop fréquents. Je ne sais pas comment me positionner vis-à-vis de lui. Nous prenons place sur les différents canapés. Amir est debout face à nous et il nous observe.
Cet endroit était l'une des nombreuses possessions de mon grand-père. Il faisait de nombreux voyages humanitaires, notamment en Afrique du Sud. Nous allons y vivre pendant notre séjour.
Je comprends mieux qui est l'homme dont le portrait est accroché en plein milieu de la pièce. Amir et son grand-père ont des traits de ressemblance, notamment leurs yeux, similaires en tout point. Saad Ben Khalif. L'homme responsable de notre venue ici. Amir sort une carte de l'arrière de son pantalon qu'il dépose sur la petite table basse face au canapé. Il pointe du doigt un lieu où se trouve une croix rouge.
Nous sommes ici, dans la ville de Oudtshoorn. Pour être plus précis, on est dans la province du Cap Occidental, à 350 km à l'est de la ville du Cap. Les grottes du Kango ne se trouvent pas loin d'ici. C'est pour ça qu'on est venu s'installer dans cette baraque. Les grottes sont occupées par de nombreuses visites touristiques en journée. Donc, la fouille est impossible. On ira là-bas en soirée pour être tranquille et effectuer nos recherches sans être dérangés.
Nous hochons la tête.
Demain soir, nous irons dans les grottes. Le but est de récupérer la puce électronique. Puis on se tire et on retourne en France avec la puce.
Ça a l'air tellement simple, mais nous savons très bien que ça ne va pas se dérouler comme prévu. Je suis bien placée pour savoir que même un plan qui a l'air facile est forcément confronté à des imprévus. Lorsqu'on aura atteint notre but, de nouvelles emmerdes commenceront. Mon alliance avec Amir cessera inévitablement dès lors qu'on aura la puce entre les mains. Comment puis-je dire à Amir que je compte détruire l'héritage de sa famille? Il a fait tellement d'efforts et de sacrifices pour l'obtenir. S'il soupçonne mes intentions, il serait capable de me buter.
Aujourd'hui, vous avez la journée de libre. Les gars, vous devriez aller faire les touristes. N'attirez pas trop l'attention sur vous et veillez bien sur Eliane. Eymen a de l'argent si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ne le quittez pas. Il a l'adresse de cette maison et tout le reste.
Indique Amir. Amir se tourne vers Mathieu.
Je te préviens tout de suite. Si tu fais la moindre connerie, tu dors dehors ce soir.
Le menace-t-il. Mathieu ouvre grand les yeux, choqué, en passant la main sur son cœur comme s'il était vexé par les propos d'Amir.
Quoi?
Mais pourquoi tu dis ça qu'à moi et pas aux autres? S'étonne Mathieu.
T'as tendance à ne pas savoir te canaliser en public, donc ne te mets pas à hurler en voyant un insecte, sinon tu risques de nous faire remarquer.
Lui lance Eymen. Mathieu hausse les sourcils.
Venant de mecs qui se baladent armés comme si c'était des militaires, c'est ironique.
Amir lui lance un regard noir et Mathieu lève les mains en l'air en signe de capitulation. Josh, Eymen et Eliane laissent échapper un rire. Les trois hommes me font un signe de la tête pour me dire « à tout à l'heure », tandis qu'Eliane se rapproche de moi et dépose un baiser sur ma joue. Je le prends dans mes bras pour lui rendre son baiser. Je reste avec Amir et l'observe en attendant qu'il me donne une directive à suivre. Je me demande pourquoi je ne fais pas partie de la visite touristique avec les autres. Il doit sûrement vouloir qu'on effectue une mission pendant qu'il profite du voyage. Mais il reste silencieux, alors je l'interroge.
Qu'est-ce qu'on fait, nous?
Il se met à fixer le plafond.
Toi et moi, on reste ici.
Je l'observe avec incompréhension. Pour? Je demande. Il baisse à nouveau son regard pour me fixer avec un visage impassible.
Tu fais ce que tu veux tant que tu ne bouges pas de cette baraque, et moi je tâcherai de m'occuper.
M'indique-t-il. J'arque un sourcil face à son ordre. Pardon.
T'as très bien entendu.
Sa voix est ferme et catégorique. Je peux savoir pourquoi je suis privée de sortie? Je me retiens d'hurler.
Repose-toi pendant que les autres sont pas là.
J'ai l'intuition qu'il me dissimule quelque chose. Pourquoi n'ai-je pas le droit de visiter avec les autres?
Parce que je l'ai décidé.
Je me relève du canapé pour me mettre face à lui. Il ne détourne pas les yeux et il ne laisse rien transparaître. Dis-moi la vérité. Il reste indifférent.
Qu'est-ce qui te fait croire que je mens?
Me questionne-t-il. Cause toujours, tu m'intéresses. Tu caches quelque chose, ça se voit. Il soupire, puis il passe une de ses mains sur son visage. Je suis capable de déceler ses tics quand il est nerveux ou qu'il ment.
T'es vraiment casse-couille.
Soupire Amir. Je sais. Il hésite avant de poursuivre.
Ce village abrite plusieurs trafiquants. J'aimerais éviter qu'on se retrouve confrontés à eux.
M'informe Amir. Je hausse les sourcils. Et alors? Je te rappelle ce que nous sommes ou pas? Comment veux-tu qu'ils devinent ce qu'on fait dans la vie tous les deux? Je te rappelle qu'on n'est pas venus avec des armes ou de la drogue. Nous n'avons rien à leur apporter.
Écoute. Je te parle pas de trafiquants d'armes ou de drogue.
Je suis perdu. De quoi tu parles alors?
Je te parle de la traite d'êtres humains. Des hommes kidnappent des jeunes femmes pour les forcer à devenir des prostituées, des esclaves, ou encore pour les déposséder de leurs organes et les vendre sur le marché noir. Majoritairement, quand ce sont des femmes, elles sont soumises aux deux premiers cas que je viens d'évoquer.
Je me mords la lèvre en comprenant. Le trafic d'êtres humains a toujours été un secteur qui me répugne au plus profond de mon âme. Heureusement que ce n'était pas le domaine d'Ahmed. J'ai déjà rencontré des trafiquants qui fournissaient des prostituées aux gangs d'Ahmed et c'était terrible. Ils n'ont aucune moralité et aucune compassion pour la vie humaine. Les filles sont traitées comme de vulgaires objets sexuels. Toutes celles que j'ai pu rencontrer étaient couvertes de bleu et souvent toxicomanes, à cause de toutes les drogues que leurs dirigeants leur donnaient. Je me souviens qu'ils fournissaient également des enfants. Des petites filles âgées de 8 à 14 ans, qui arrivaient pour la plupart de pays hispaniques ou africains. Les hommes de mon ancien gang adoraient ce genre de gamines. C'étaient des pédophiles sans foi ni loi. Quand j'ai eu tout juste 17 ans, Ahmed m'a demandé de donner son salaire à l'un de ces hommes. Je suis montée dans sa chambre et j'ai entendu des cris. J'ai vu ce porc allongé sur une gamine qui devait avoir 12 ans et qui pesait 40 kilos à peine. J'ai voulu l'éloigner d'elle en attrapant une lampe qui traînait et je l'ai cognée si fort que son visage était méconnaissable. Je n'arrivais plus à m'arrêter. Je me suis calmée seulement quand le patron de la gamine est entré. Il a considéré que c'était sa faute. Il lui a tiré une balle entre les deux yeux sans la moindre hésitation et elle s'est écroulée. J'étais dévastée. Ahmed est arrivé quelques secondes après quand j'étais sur le point de sauter sur ce fils de pute pour lui faire payer. Il m'a menacé de s'en prendre à Maria. L'homme s'est barré en nous laissant le corps de la petite avec un grand sourire. J'ai compris à ce moment-là que c'était normal pour ce genre de type de tuer leurs filles et de les remplacer par des nouvelles. Ahmed m'a frappé si fort ce soir-là que j'ai cru que j'allais être paralysée. Il était fou de rage que j'ai osé m'interposer entre son homme et cette petite. Le fait que j'ai battu ce porc à mort n'a fait qu'accroître sa colère. Cette souffrance physique n'était rien par rapport à la culpabilité que je ressentais d'être responsable de la mort de la fillette. L'homme d'Ahmed a été transporté aux urgences. Il a eu un violent traumatisme crânien suite à mes coups. Il est mort en salle d'opération. Pour lui, cependant, je ne me suis pas sentie coupable. Amir me sort de mes pensées.
Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es tétanisée?
Me questionne-t-il. J'essaie de ne pas lui montrer que la mention de trafic d'êtres humains a réveillé en moi de nombreux souvenirs douloureux. Mes mains tremblent. Je les cache rapidement derrière mon dos pour qu'il ne se rende pas compte. Il me lance un regard dubitatif, mais il ne semble pas avoir remarqué mes tremblements. J'ai rien. Je comprends pas ce qu'on peut craindre de ces trafiquants. Il s'agit généralement de petits criminels du coin sans grande envergure.
Je ne te parle pas des petits voleurs du coin, mais d'occidentaux qui viennent dans les pays pauvres pour s'y installer. Ils envoient tous les jours leurs hommes chercher de nouvelles filles pour servir leurs intérêts. Ensuite, ils les vendent aux plus offrants. Les filles en question ne sont jamais retrouvées. Elles ont trop peur de les dénoncer et sont souvent emmenées loin de leur pays d'origine.
M'explique Amir. Comment peut-on briser la vie d'autant de personnes et parvenir à dormir correctement la nuit? Ces hommes n'ont pas un cœur qui bat comme les gens normaux. Habituellement, Amir n'en aurait rien eu à foutre de ces fils de pute. Il serait même sorti avec moi juste pour les narguer et les tuer dès qu'ils auraient essayé de nous faire du mal. Depuis la mort de Maria, il est surprotecteur et il essaie au maximum d'éviter la confrontation. Il doit sûrement se dire que je ne suis pas encore en état de me battre et qu'il vaut mieux ne pas chercher les ennuis.